Star Wars en direct vous est présenté par SiteClan.net, MintInbox.net, StarWarsUniverse.com et CamuliWeb.com.
Et bienvenue à ce nouvel épisode de Star Wars en direct, édition The Clone Wars. Dans cette 29e émission, nous allons discuter du 12e épisode de la seconde saison de The Clone Wars, The Mandalore Plot. Voici un petit synopsis de l'épisode. Tandis qu'il enquête sur des rumeurs concernant la duchesse Satine de Mandalore, Obi-Wan découvre la vérité sur un complot mandalorien sous le contrôle de Pre Vizsla. Il a été écrit par Melinda Chou et réalisé par Kyle Dunleavy. L'équipe de Star Wars en direct a commenté cet épisode, et voici notre discussion. Bien, ben, bonjour tout le monde, alors nous revoilà pour de nouvelles émissions, donc on est toujours rejoint par Louis, salut Louis.
Salut, je suis en deuil.
Et Thomas, salut Thomas.
Ben voilà, voilà.
Toujours à la recherche de phrases choc, genre des phrases choc, quand il y a un blanc ça veut dire que c'était pas bon. Hein. La prochaine sera la bonne, hein.
Peut-être, peut-être.
Fais des bisous, Gus.
Donc, on va essayer de rattraper un peu notre retard. Donc, on va déjà, aujourd'hui, on va parler, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, on va parler de The Mandalore Plot, le premier épisode de la trilogie mandalorienne. Donc, je sens qu'on va, ça va mal
bien
se passer. Donc, par quoi voulez-vous commencer? La petite phrase, avant que je,
oui,
avant que je l'oublie.
Dans l'ordre, hein, cher ami.
Ouais, mais comme j'oublie toujours, là, cette fois-ci, j'y ai pensé.
Ah, je vais le faire avec mon accent anglais de la mort qui tue. If you ignore the past, you, ça veut dire, Joe Paradise, the future. Alors, ils ont mis Joe tout, je sais pas ce que c'est, hein. Et, la traduction des sous-titres, celui qui ignore le passé, compromet son avenir. Oh là là, c'est lourd de sens, tout ça. Qu'en ouais. penses-tu, cher Thomas, toi qui trouves que c'est très philosophique?
Alors, moi, ce que j'en pense, c'est que ça s'applique plutôt, je dirais, à Obi-Wan, dans un sens, parce que Satine, on verra dans l'épisode, elle lui reproche beaucoup d'oublier ses idéaux de Jedi et ce que sont les Jedi à la base, au niveau, justement, de comment dire, de leurs valeurs, etc. Et puis, peut-être qu'on peut penser aussi au Mandalorien, qui fut un temps, dans ce nouvel univers, étaient des grands guerriers qui sont devenus plus ou moins des pacifistes maintenant. Voilà.
C'est quoi? Ah non, que... non.
Vas-y.
Non, pas des pacifistes!
Bon bah, je crois qu'on
va. Non, mais en plus, Satine, quoi, faut le faire! Eh, mec, ils ont été chercher nom dans Moulin Rouge, quoi.
Je sais pas.
Non, mais c'est, ça, c'est magnifique, quoi. Bah, ça va très bien. Ils ont voulu faire un clin d'œil avec Moulin Rouge, c'est sûr, avec Obi-Wan Kenobi joué par Ewan McGregor. C'est obligé, mais c'est d'un ridicule. Ils ont trouvé une bonne femme. Fait, tiens, tu seras princesse de Mandalore.
Et par contre, voilà. J'aime bien le personnage, mais c'est vrai qu'après tout le reste, c'est complètement débile. D'ailleurs, je sais plus si c'est sur SVU ou c'est sur des forums américains, mais si on regarde, c'est complètement parallèle avec Padmé et Anakin. Hein.
Exactement.
C'est exactement.
Sauf que là, en fait, on voit justement que entre Obi-Wan et puis Anakin, chacun prend un chemin différent en fonction de la même situation, parce que lui-même, il l'a rencontré a priori quand il était jeune avec son maître, sauf que lui, il n'a pas choisi Obi-Wan le chemin de l'amour, alors que Anakin l'a choisi lui.
Le chemin de l'amour. Avant de parler sur le fond de l'épisode, là, je voudrais revenir un peu sur le scénar. Et surtout sur quelques points de détail que certaines personnes ne connaîtraient pas éventuellement. Donc à savoir qui sont les Mandaloriens. À l'origine, les Mandaloriens, quand même le mythe est né de Boba Fett avec l'Empire Contre-Attaque. Comme quoi il était vraiment cool avec son jetpack et son armure. Et de là, on a fait toute une caste de guerriers appelés les Mandaloriens qui ont toujours fait des guerres intergalactiques gigantesques, notamment... durant l'Ancienne République avec ce qu'on appelle les guerres mandaloriennes qui sont plusieurs saisons de guerre sous le commandement de Ulic Keldroma et Exar Kun, mais aussi durant juste avant la guerre civile des Jedi, avec Mandalore l'Indomptable, Mandalore l'Ultime, je veux dire. Et donc ça a toujours été des grosses castes de guerriers. Et donc là, qu'est-ce qu'on nous dit finalement? On nous dit ici que vers -700 avant la bataille de Yavin, le peuple mandalorien serait rentré en guerre et que l'issue de cette guerre aurait été un petit peu la désintégration de leur monde Mandalore et qu'à cette suite-là, ils seraient devenus pacifistes.
Oui.
Donc on parle aussi des Death Watch, j'ai du mal à le prononcer. Alors qu'est-ce que c'est ça? À l'origine, c'est une faction mandalorienne qui est présente dans Jango Fett Open Season ou la balade de Jango Fett qui a été éditée par Delcourt récemment. Et donc ces Death Watch sont des réfractaires au système mandalorien actuel. À l'origine, c'était mené par un mec qui s'appelait Visla, donc comme dans l'épisode,
sauf qu'il a pas le même prénom.
Voilà, sauf qu'il a pas le même prénom, enfin bref. Et il se battait à l'origine contre Jaster Merel, qui menait les vrais Mandaloriens. Donc les vrais Mandaloriens, avec leur Mandalore qui était Jaster Merel, et qui était des petites factions qui étaient en train de mener des contrats au sein de à travers la galaxie. Et donc Visla, lui, il a dit non, stop, moi je veux être le Mandalore, et il a fait sécession. Alors, ce qui est quand même pas mal, c'est que dans cet épisode, ils ont quand même réutilisé tout ça. Ils ont réussi à l'amener. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain travail qui a été fait là-dedans.
Oui, le problème, c'est qu'encore une fois, ils font venir un peu de l'univers étendu, mais ils détruisent ils le détruisent en même temps, donc c'est pas le meilleur.
Ah, je suis pas d'accord. Parce qu'ils l'ont quand même bien amené, hein. J'étais quand même étonné.
Non, mais attends.
Je veux dire, ça aurait pu être plus catastrophique que ça, hein.
Ah, mais quand même, comme tu dis, les Mandaloriens pacifiques, faut pas les conner, quoi.
Ouais, mais attends, t'as vu à la fin de l'épisode, hein, si c'est pas des gros bourrins, quand même?
Oui, c'est
vrai. Deux Mandaloriens qui mettent à terre Obi-Wan Kenobi, quoi.
Ouais, il faut... C'est quand même pas des puissants. Hein. Et comparé, en fait, avant, c'était comme tous les Mandaloriens qui étaient guerriers, pas juste quelques paumés sur une lune.
Non, mais là, tout ce que tu souhaites, c'est que le Death Watch réussisse son coup, qu'ils arrivent à égorger Satine, tu vois, qu'ils mettent du sang un peu partout,
Il y a un autre truc qui m'a vraiment choqué, c'est le fait de dire qu'à un moment, ils disent que Jango Fett n'était juste un simple chasseur de primes.
Alors justement, ça, moi, je me dis, c'est que dans cette nouvelle version qui nous amène, des Mandaloriens pacifistes, eux, ils considèrent que comme Jango Fett, c'était le roi de la baston, et ben pour eux, c'est plus un Mandalorien. Donc c'est un petit peu comme s'ils le rejetaient, et ils disent, c'est juste un vulgaire chasseur de primes.
Ah, mais attends,
vulgaire chasseur de primes, c'était un Mandalore.
Non, mais c'est ce que eux disent. Genre.
Quand même, avec en plus ceux qui ont lu les comic books Knights of the Old Republic, qui est quand même Cassius Fett, qui est quand même de ses ancêtres, hein. Mm-hmm. Qui est justement aussi Mandalore.
Eux le rejettent, si tu veux. C'est comme si, je sais pas, tiens, j'en sais rien, t'as un président qui est adoré par tout le monde, mais il y a des gens qui disent, nous, on le rejette, on considère tu vois ce que je veux dire? On considère que c'est un moins que rien. Bah, c'est un point de vue, quoi. C'est juste que...
Mais ça,
eux,
ça peut se passer uniquement avec Olivier Besancenot, sinon... Encore, il se fera jamais élire, donc... Enfin, je sais que t'as une larmichette comme tes profs, mais bon...
Sérieusement, par contre, moi, ce qui m'a le plus choqué au niveau des Mandaloriens, c'était le fait que ils aient tous la même armure dans les Death Watch, ce qui est pas le cas justement dans la BD justement que t'as cité, Louis, et ce qui a jamais été le cas. Ils ont jamais eu une armure homogène.
Une armure typique. Hein.
Et l'autre point qui m'a gêné, c'est le fait que on a l'impression que c'est tous des Ariens, quoi, les Mandaloriens. Ils sont tous blonds aux yeux bleus. Il y a quelques chauves. Ben, écoute, non, mais si tu veux, le problème, moi, c'est que justement, normalement, les Mandaloriens, c'est des cultures qui se mélangent, etc.
Ouais,
donc...
Et le fait que ce soit des hommes qui soient tous blonds, c'est pas le problème. Le problème en soi, c'est qu'il n'y ait pas de race extraterrestre.
Aussi. Mais déjà, si tu veux, c'est encore pire qu'il y ait que des blonds aux yeux bleus, quoi. C'est parce que t'as l'impression qu'ils sont fermés, si tu veux. Or, en fait, les Mandaloriens, c'est vraiment le melting pot, quoi.
Et en plus, quand on y repense, Jango Fett est brun. Tout tout comme Boba.
Non, mais qu'il y ait des blonds, c'est pas gênant, finalement, puisque ils assimilent d'autres personnes dans leur culture. Donc, qu'il y ait quelques blonds, c'est pas gênant, mais il faudrait au moins quelques bruns, quelques, quelques blacks, quelques extraterrestres, etc., quoi.
Ouais, mais par contre, moi, le cas de l'armure, c'est pas trop le truc qui me gêne, parce que étant donné que tu te dis que c'est devenu des vieux pacifistes tout pourris, bah, ils réutilisent les armures traditionnelles mandaloriennes. C'est pas un souci en soi.
Ouais, mais pourquoi elles sont toutes pareilles, c'est ça? Normalement, tu sais, t'en as plusieurs différentes, des armures.
Ah, tu sais, ils sont en train de faire une armée, donc pourquoi les armures de clones sont toutes pareilles aussi, hein?
Alors, moi, justement, c'est parce qu'ils justement, les Mandaloriens sont censés les faire à leur propre idée, quoi. Ils les font comme ils les veulent, comme ils les, les couleurs de préférence. Comme Jango avait sa couleur bleue, Boba Fett avait pris le vert.
Je crois que c'est quand même un cas particulier. Putain, j'ai l'impression
d'être. Ouais, ça va pas, on inverse les rôles, là.
Ouais, non, mais là, faut arrêter.
Sors de mon corps!
Bon, ça va pas être... Ah, non, mais non! C'est vraiment dégueulasse!
Non, mais, Thomas, vu que t'es en train de lire, les Républiques Commando, tu te souviens plus s'ils parlent des couleurs?
Ce que je me souviens par contre par rapport aux République Commando, c'est que justement à un moment ils vont sur Mandalore. Moi j'ai lu que les VF, hein. Et ils vont sur Mandalore et elle nous décrit la planète Mandalore comme un peu vierge, quoi. C'est-à-dire on parle pas de ces grosses villes, etc.
Non, je voulais dire, moi c'est facile, c'est pour moi Mandalore, c'est la gueule qui a la lune où se trouvent les Death
Watch. Concordia.
Pardon ?
Ouais, c'est de Concordia.
Ouais, voilà, exactement.
C'est ça.
Pour moi, c'est la gueule de Mandalore comme je le voyais. Exactement.
Alors,
la couleur, les paysages et tout ça.
Mais moi, ce qui s'est passé, du coup, c'est que, comme en fait, pendant que je lisais le True Color, donc qui est le tome 3, et que j'ai découvert en fait l'épisode en même temps, quand ils ont dit je vais sur Mandalore, moi je m'imaginais en fait Mandalore comme je l'ai vu sur le dessin animé. Ce qu'on a vu les extraits avant, etc. Et en fait, quand ils nous disent ils ont un camp, donc ils préparent leur camp là dans une plaine qui est vraiment vierge. Ouais. Et je me suis dit finalement c'est pas si incohérent que ça, parce que quand on voit justement la planète Mandalore, ils habitent les Mandaloriens. Il y a une grande ville, mais cette ville est sous un dôme. Donc finalement, pourquoi pas une planète plutôt vierge, Mandalore, avec plusieurs grosses cités qui sont des dômes et tout le reste vierge, avec pourquoi pas ces Mandaloriens en dehors de ces grandes villes qui sont indépendants, eux.
Ouais, mais t'as pas de description de Mandalore dans les livres de Karen Travis.
Pas vraiment, non.
C'est pour ça que je te dis que
les Mandaloriens de Karen Travis, ils vivent surtout dans les sortes de huttes. Hein, ils vivent pas dans les grandes
exactement.
Villes.
Mais peut-être qu'on peut dire que Kawan Travis dans...
Bah tu les as, les petites huttes, t'as pas vu les apéricubes par terre, là, à côté du dôme?
Mais ça, c'est pourquoi pas l'architecture, je veux dire, c'était original en plus, le fait qu'il y ait...
Tu peux pas enlever le fait que les graphismes sont superbes.
Ah bah ça, non, c'est magnifique.
Si on parle de l'architecture de la ville, c'est quand même une réplique de Coruscant, hein, quand même.
Je suis pas d'accord. Puis, ne serait-ce que tout soit cubique, ça apporte une touche supplémentaire. Même les arbres sont en cube.
Ah oui, parce que ce que Coruscant, c'est ouvert, tandis que là, c'est fermé comme c'est cubique. Ouais, c'est non, c'est complètement différent de Coruscant.
Quand ils vont dans le palais,
quand tu vois les couleurs, c'est la même couleur un peu métallique, c'est les mêmes grands bâtiments.
Pas du tout, t'as une dominante de bleu, alors que Coruscant,
c'est les couleurs
chaudes. Dominante de béton et tout ce que tu veux, hein.
Et l'autre, couleur chaude pour Coruscant, pour moi, et couleur froide pour Mandalore, justement. Moi, j'ai vraiment senti cette nuance.
Ouais, mais quand j'ai vu l'épisode, là, tu sais, à un moment où il marche avec Obi-Wan et Satine marche sur une sorte de passage, tu sais, en vert.
Ouais.
Ça m'a complètement fait penser au documentaire vidéo sur Coruscant qu'on voyait pour la création du jeu en ligne The Old Republic, hein, ça va.
Bah, en même temps, tu sais.
Dès que j'ai vu le passage, je me suis dit, mais attends, ils ont piqué ça du documentaire.
Les mecs, ils font des terrasses comme ils font des terrasses dans toute la galaxie, sauf qu'ils adaptent un peu leur style qui est cubique, quoi, voilà.
Pas convaincu.
Mais surtout, moi, pour moi, dans la description de Mandalore, je sais pas ce que ça donne dans le tome 4 de Kahn Travis et puis l'Imperial Commando, mais pour moi, la description ne rentre pas forcément en... Il n'y a pas une grosse incohérence par rapport au bouquin. Alors, par contre, sur le style de vie, comme Travis, elle les décrit, les Mandaloriens, sur machin, la fierté, sur l'ouverture, sur machin, là, on s'écarte un peu plus. Mais on peut considérer que Travis, elle nous parle des Mandaloriens, les vrais, de base, et non pas ces pacifistes-là qui, eux,
qui font sécession.
Voilà, ils ont renié une partie de, des Mandaloriens.
Comme ils nous le présentent.
C'est là que, non mais sincèrement, c'est là que je pense quand même qu'il y a eu pour une fois un travail fait pour limiter la casse au niveau incohérence. Ouais,
par rapport à ce qu'on voit dans l'épisode, pour, c'est quand même presque les Mandaloriens pacifiques qui sont vraiment reconnus par la République, qui sont vraiment les principaux et tout ça, hein.
On est d'accord. Mais oui, mais si tu voulais que The Clone Wars soit original, parce que, mais ce sera pas le cas, il faudrait, que l'attentat contre Satine soit réussi, qu'elle meure, et qu'on ait un retour chez les vrais Mandaloriens. Voilà.
Mais peut-être que justement à terme, dans la suite des Oclos Noirs, un jour ils reprendront Mandalore, les vrais Mandaloriens. Et par contre,
attends, ça c'est déjà le cas. Hein. Après la guerre des clones, le gouvernement de Satine, il tombe. C'est marqué dans l'encyclopédia. Hein.
Ah non, d'accord. Non, c'est vrai.
Oui, c'est vrai.
D'accord. Ça j'ai pas vu.
Ils ont changé ça. C'est parce qu'ils ont changé ça juste pour la série, en gros, quoi. Ils ont fait cette chronologie.
Ou c'est Nilanchi qui a fait c'est bon les conneries, allez hop.
Parce que là c'est pas, parce que le fait que ça change juste maintenant et qu'ils disent déjà à la fin de la série que le gouvernement de Satine tombe, c'est bien pour dire.
Ouais. Mais si autant, pour raccorder en fait.
On va garder ça pendant la série et on s'en débarrasse après.
C'est pour raccorder, je pense, à la suite des romans.
On va pas s'en plaindre. Hein.
Parce que tu vois par exemple dans justement quand tu lis tu sais Boba Fett la e-book du NOJ, et ben au début
le monde.
Ouais, si tu veux. Ils ont à nouveau un Mandalore qui représente la planète, etc., etc. Donc il faut qu'à un moment ils redonnent de la cohérence par rapport à la suite de la saga, quoi. Donc, à mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Mais sinon, je sais pas si vous avez remarqué, mais même le plan justement qui est à la base engendré par Dooku et puis donc Vizsla, il est pas mal, hein, finalement, l'idée de faire apparaître les vrais Mandaloriens en tant que sauveurs un peu de Mandalore pour qu'ils aient une légitimité en revenant reprendre la planète, quoi. Je trouve ça assez bien vu, quoi, à la base. Non, ça vous a pas marqué, vous?
Non, ce qui est surtout nul à chier, c'est le fait que le gouverneur de Concordia s'appelle Vizsla. Et après, t'as Satine. Quoi? Vous dirigez le Death Watch? Mais c'est pas possible! Pourtant, ah zut, ton ancêtre était déjà dirigeant du Death Watch. Ah bah zut alors, ça tu parles d'une surprise.
Il y a un lien avec, officiellement, il y a un lien entre justement Previsla et Torquisla.
Faut pas être stupide.
S'ils font pas le lien, c'est vraiment des débiles, quoi.
Non mais carrément. Allez, vas-y, cherche une excuse, vas-y.
Non, mais moi finalement, mais je trouve ça pas plus mal, hein, qu'il y a un lien justement entre les deux, hein. Donc
oui, mais le lien est stupide.
D'ailleurs, un autre truc qui m'a...
S'il y avait pas eu de lien, t'aurais râlé, t'aurais dit oui, c'est pas normal.
Non, attends, le fait que soit un Vizsla qui soit à la tête, pourquoi pas, mais qu'il soit gouverneur de Concordia et qu'il ait la totale confiance de Satine, bah ça veut juste dire que Satine c'est une cruche, quoi.
Bah, il peut aussi lui faire croire qu'il a renié et, machin, son passé, sa famille, gna, tu vois. Bon.
Sinon, il y a évidemment comme justement, genre, je reviens sur le fait qu'ils disent que Jango Fett n'était pas vraiment Mandalorien, mais ça remet en question également tout le fait que les clones sont quand même tirés des Mandaloriens, comme on voit justement dans les Karine Travis.
Mais si, c'est un Mandalorien, mais qui est renié par la faction nouvelle Mandalorienne. C'est tout.
Et puis mais... attention parce que
ça,
t'as dit un truc
ça pas le fait que ça remette en cause le fait que les clones sont quand même mandaloriens.
Mais non, Jango Fett, il avait des suiveurs, les QI Valdar, et les QI Valdar ont fait l'éducation des clones, ça empêche pas que les QI Valdar étaient une faction reniée par Satine et les nouveaux mandaloriens et qu'ils ont entraîné les clones selon les rites mandaloriens. Non, ça enfin il y a moyen de concilier les deux, quoi. Ouais.
Et puis aussi, t'as dit quelque chose, Henri. T'as dit, on a l'impression que les Mandaloriens pacifistes, ils sont majoritaires. et puis qui sont reconnus par la République. Donc ils sont reconnus par la République, oui, parce qu'ils sont pacifistes, et on a l'impression qu'ils sont majoritaires, parce qu'on est de leur point de vue à eux. Mais ce qu'on disait, c'est qu'est-ce que t'en sais que les Swatch, ils sont pas plus nombreux, peut-être, et que sur le reste de la planète, t'as pas justement plein de Mandaloriens, des vrais, qui sont un peu éclatés, qui ont justement ces petites baraques, comme on voit dans les romans de Karen Travis.
Ouais, mais je sais pas, pour moi, Satine, vu comment elle parle du Death Watch, c'est pour moi, je le vois presque comme si c'était la seule faction dissidente.
Ah, c'est de la
non,
politique,
parce que... Non, parce que les vrais Mandaloriens menés par Jaster Merel étaient aussi reniés par les nouveaux Mandaloriens.
Parce que d'un ouais, mais pour moi, d'un côté... T'as Satine avec son gouvernement pacifique et après de l'autre côté les Death Watch, hein. Parce que pour moi justement comme les Death Watch sont un peu agressifs, pour moi j'aurais pensé que si on avait vraiment les autres Mandaloriens, ils auraient peut-être un peu suspectés aussi et donc on en aurait parlé.
Bon, sinon Satine, vous en avez pensé quoi? Parce que moi tout à la base moi j'avais cru quand je l'avais vu dans les dans les bandes annonces, au début, je pensais que c'était une humanoïde parce que avec tous ces son espèce de coiffure là, j'ai l'impression que c'était des espèces d'antennes, je sais pas quoi. Et c'est qu'après quand j'ai voir sur Wikipédia, on m'a dit "Ah non, c'est une humaine." Et là, c'est là où j'étais hyper surpris. Et pour le coup,
dit, va t'acheter des yeux.
Je me suis dit aussi, elle est super moche. Je sais pas vous ce que vous en avez pensé, et tu te dis le pauvre Obi-Wan. Quand même, ça sert à quoi d'être un Jedi?
Elle est surtout gnangnan dans ses manières de faire.
Elle est quand même plus intéressante que Padmé.
Et tu dis, le pacifisme, ça a bon dos, ouais, d'être pacifiste, ok. Mais fait, non, je ne veux pas utiliser une arme, non, je veux pas lui donner une claque, non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, ça devient ridicule, quoi.
Je la trouve quand même comme personnage féminin, elle est quand même plus intéressante que Padmé dans un Clone Wars, hein, vous allez pas dire le contraire.
Oui, c'est sûr, mais c'est pas difficile, hein.
Non, mais bon... Mais bon, avec ça, d'un côté, elle a ses tenues comme Padmé, elle a une relation amoureuse avec Obi-Wan, enfin bon, c'est vraiment la même histoire qu'Anakin, la version Obi-Wan. Et c'est un peu dommage qu'ils se soient un peu trop copiés là-dessus.
Et sur un forum, j'ai vu un commentaire, justement, quelqu'un qui disait, Obi-Wan, justement, il est amoureux de Satine, même si elle est, bon, on va dire, elle est un peu vilaine. Parce qu'il voit à l'intérieur, c'est un Jedi, il voit la beauté du machin. J'ai trouvé ça rigolo comme commentaire, je vais le replacer.
Ouais, qu'est-ce que c'est QQ?
Ah, c'est QQ, ouais, mais c'est Jedi, tu vois.
Non, pas vraiment.
Et sinon, toujours sur la planète, quand on rentre dans le palais également, je sais pas si vous avez remarqué, il est particulièrement bien foutu aussi avec les effets de lumière qui rentrent à l'intérieur. Et notamment, ils ont insisté, il y avait un tableau sur lequel ils ont fait tout un pataquès, je sais pas si vous vous rappelez, qui faisait une allusion, je sais plus, à Guernica ou quelque chose comme ça.
Un peu ça, non,
oui, exact.
Ça vous rappelle quelque chose? Puis il y a aussi un espèce de mosaïque, justement, de Satine dans ce fameux palais, et tout en cubique, justement, comme si c'était un petit peu... lié à ces nouveaux Mandaloriens, si ce cubisme il faisait partie un peu de leur, on le retrouvait dans l'art, dans l'architecture, dans les jardins, etc., etc. Donc un petit effort, je pense, de créer un univers pour ces Mandaloriens pacifistes.
Oui, un autre truc que je ne sais pas si ça va vous faire pareil, mais je suis seul à trouver que les paroles du suicidé ne ressemblent pas à la voix à la langue mandalorienne qu'on entend dans...
C'est normal, c'est un dialecte.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est pas...
Apparemment, c'est du patois, hein.
Ouais, c'est pas le mandalorien officiel, c'est le mandalorien dérivé de Concordia.
Ah, apparemment, ils ont trouvé la parade, parce que de toute façon, le temps qu'ils trouvent tous les mots, là, et qu'ils suivent vraiment toute la grammaire, ils se seraient foirés, donc ils ont inventé un truc. Hein.
Ouais, mais c'est bien vu, ça veut dire que quelque part, ils respectent un petit peu, ils disent, bah voilà, il y a une langue mandalorienne, donc on la place pas, mais on donne un autre dialecte, et ce qui finalement passe bien, quoi. C'est-à-dire que les Mandaloriens, ils parlent pas que le basique. Hein?
Là, ils ont surtout fui, hein.
Tu peux le considérer comme ça, ouais. Mais bon, il y a un petit effort, quand même. Il y a une perche tendue, quoi.
Comme dirait quelqu'un, ils ont ouvert la porte. J'ai envie de répondre qu'ils la referment.
Et sinon, Satine, c'est donc la chef, en fait, des systèmes neutres. Donc, c'est l'ensemble des systèmes qui refusent donc la guerre, et on nous dit qu'ils sont 1500 mondes à refuser cette guerre.
Ça paraît beaucoup, hein.
Donc elle a une double casquette. Elle a une double casquette.
Ça fait plaisir.
Qu'est-ce que vous avez pensé sinon des casques des nouveaux Mandaloriens?
Bah, ils sont comme ceux des Mandaloriens normaux, sauf qu'ils sont allongés, quoi.
Non, ceux des pacifistes.
Ah oui, les casques des gardes.
Ouais, voilà, c'est ça, les casques des gardes.
Ça fait taureau.
Moi, je trouvais que ça faisait un peu casque d'Heroic Fantasy.
Ouais, non, ça, c'est pas très beau. Ouais. Par contre, le sénateur, moi, je savais d'emblée de jeu qu'il y avait un truc pas net avec lui, quoi. Ils arrêtent pas de faire des gros plans sur sa tête.
Mais Vizsla.
Ouais, hein. Puis il a le sourire du méchant, quoi. Un
non,
peu
pas
en
Vizsla, hein. Le mec qui est dans... qui
ouais, avec le sénateur. Ouais, le sénateur, c'est ça, hein.
Ouais, franchement, bonjour la surprise, quoi. Mm-mm. Trop difficile.
Et vous, on est toujours dans le même épisode?
Ouais. Bien sûr.
Mais, si tu veux, attends, je te redonne le nom tout de suite. C'est un des sénateurs qui va être accusé par la suite. Son nom, c'est Talmeric. Et c'est le sénateur de Kalevala. Et c'est un monde, en fait, du système mandalorien.
Ouais, celui-là, je crois qu'on en parle de ce monde dans les clones de Travis. Dans les...
Ça, ou alors, je m'en rappelle pas.
Parce que ça me disait quelque chose avant, ce monde-là. Sinon, sur la planète, on va changer un petit peu de sujet, mais est-ce que je suis le seul à avoir remarqué que Obi-Wan qui prend le speeder, il est vraiment il est même pas remarqué. On le remarque même pas, on le laisse partir, il pique un speeder et ça fait pas, il disparaît comme ça de l'endroit et ça fait ni une ni deux, personne ne fait l'arme.
Sur Concordia?
Ouais. Tu sais, quand il va chercher l'usine.
Ouais, c'est grave.
Il quitte Satine 30 secondes après leur arrivée, mais sinon, personne ne se demande où il est passé.
Ouais, je sais pas, moi c'est peut-être qu'ils sont un peu la tête dans le guidon et que c'est pour cette raison que du coup ils y pensent pas, quoi. Qu'ils sont peut-être tellement sûrs d'eux qu'ils pensent même pas à ça.
D'ailleurs, Louis tout à l'heure il parlait de. Ah merde, je ne sais plus ce que je voulais dire. Écoute.
Ah. Et sinon, la relation entre Dooku et puis les Mandaloriens, qu'est-ce que vous en avez pensé? Justement parce qu'il lui promet derrière un soutien pour renverser Mandalore, etc. Moi, j'ai vraiment, à chaque fois, si vous voulez, Dooku, il est tout le temps dans la manœuvre, justement. Et là, justement, cette manipulation, plus ou moins, qui fait, pour vous, ça, qu'est-ce que ça vous a évoqué?
Bah c'est le fait que, enfin tu dis que c'est Dooku qui le fait, mais je pense que c'est issu un peu comme d'habitude les demandes de son maître, hein. C'est pas vraiment lui qui est...
Alors est-ce que c'est la Death Watch qui ont été chercher les séparatistes, ou est-ce que c'est les séparatistes qui ont été chercher les Death Watch?
Moi je parierais sur les séparatistes, moi, qui sont allés chercher. Ils ont dû se dire on a besoin d'eux, on va essayer de les enrôler pour attaquer, enfin pour servir d'une nouvelle armée, et hop. Peut-être qu'ils se sont dit, tiens, on va faire une nouvelle armée pour contrer celle des clones, et tout ça, hein, parce que évidemment, si les Mandaloriens augmentent avec leurs armures et tout ça, pourquoi pas former une armée assez forte pour...
À terme, l'objectif plus ou moins pour eux, c'est d'utiliser après les guerriers Mandaloriens pour attaquer la République, vous pensez?
C'est pas impossible. D'ailleurs, ce que je repensais tout à l'heure, c'est que Louis faisait la remarque du fait que les Mandaloriens... Oh, mais flûte, j'arrive pas de repérer ce que je veux dire. Ah, flûte. Je l'avais retrouvé, je le repère.
Note-le.
Ouais, c'est une bonne idée. C'est parce que tout à l'heure, Louis parlait justement des Mandaloriens. Des Mandaloriens de Vizsla.
Bon, je relance autre chose.
Ah oui, j'ai retrouvé. C'est le fait qu'il disait que Obi-Wan se faisait quand même laté par plusieurs Mandaloriens, mais je me suis trouvé quand même. Pour des guerriers, bon, c'est vrai que peut-être qu'ils ont une partie, ils sont devenus un peu pacifistes et tout ça, donc ils ont peut-être perdu leur leur façon de se battre, mais comme Obi-Wan, il se fait comme il a quand même besoin de trois ou quatre Mandaloriens pour se faire maîtriser, je trouvais que c'est un peu beaucoup. Parce que quand même, il arrive quand même à se faire bien battre par Django dans l'épisode 2. Pour moi, j'ai pensé un peu plus intelligent pour combattre, un peu plus. Je les ai trouvés un peu mous, ces Mandaloriens, quand même.
Oh, moi, je trouve quand même que bon, pour mettre une baffe à un Jedi, faut déjà y aller, hein.
Mais il a pas trop de mal, hein, Django, dans l'épisode 2. Hein,
quand ouais, mais Django, c'est le Mandalorien, quand même, hyper balèze. Et c'est pour ça, d'ailleurs, Louis parlait justement de la BD, là, de la dernière qui est sortie chez Delcourt sur Django Fett. Dedans, ils disent bien qu'ils ont cherché quel était le Mandalorien le plus puissant de tous pour l'avoir en modèle, pour faire les autres clones. Donc, il est quand même un cran au-dessus, quoi, si vous voulez, Django Fett, par rapport aux autres.
Mais si on pense Mandalorien. À un Mandalorien comme une caste de guerriers, ils sont quand même, ça reste quand même des, un peu, ils étaient un peu mous quand même. Si,
de ouais, j'ai pas trouvé, moi. J'ai trouvé costaud, plutôt, moi.
Ah, mais carrément, ils étaient carrément, c'est ce que je te dis, pour coucher Obi-Wan Kenobi avec seulement deux Mandaloriens, faut arrêter.
Ouais, ils sont moins 3 ou 4.
Mais non, attends.
Ils sont 2 au début, je crois. Dans l'usine, ils sont 2.
Et après, puis, le chef d'Isla, il arrive quand même à tenir tête à coup de sabre, hein.
Ouais, bon, on en vient
à un par contre, là où ils sont nuls à chier, c'est qu'ils utilisent, ils utilisent le terme lightsaber.
Ouais.
Pour une vibro-lame. Là, faut quand même le faire, hein.
Non, c'est, le pire, c'est que c'est même pas une vibro-lame, parce qu'une vibro-lame, la lame existe déjà comme un sabre. Comme un sabre.
Là aussi, elle existe, hein.
Non, mais il l'a fait sortir du manche.
Bah peut-être, c'est peut-être une lame rétractable, mais c'est pas un sabre laser, faut arrêter, hein.
Ouais, mais autour, t'as un espèce de lumière verte, là, je sais pas si vous avez vu.
Oui, ça s'appelle une vibro-lame.
Non, une vibro-lame, c'est une lame, la lame, normalement, elle existe déjà, j'ai pas le souvenir dans les romans où...
Mais elle existe, elle est matérielle, là.
Bah non, il l'a fait sortir comme un sabre laser, hein.
Mais pas du tout, il y a du métal, et puis autour, t'as un halo lumineux.
Alors... Moi, je vais vous donner un truc que j'ai entendu là-dessus, parce que pour moi, c'était plutôt une vibro-lame. Justement, j'ai été voir sur Internet, je pourrais pas citer la source, mais j'ai vu un endroit où il disait que c'était un vieux sabre laser que ses ancêtres avaient récupéré en battant d'anciens Jedi.
Mais t'as pas trop peiné, hein. C'est suffisait de regarder l'épisode et tu l'aurais su.
Bah oui, c'est ce qu'il dit dans l'épisode.
C'était dit dans l'épisode?
Ah oui.
D'accord, j'ai pas retenu alors.
Exactement. C'est ce que dit Vizsla. C'est ce que dit Vizsla quand il le sort.
Ça, je l'ai maté deux fois, j'ai pas retenu, quoi.
Non, en tout cas, il le dit bien, il dit bien que c'est un sabre laser piqué au Jedi.
Ouais, en tout cas, si c'est vraiment un sabre laser, c'est lamentable, c'est ridicule.
Mais c'est même ridicule, même si c'était une vibro-lame, parce que pour moi, c'est pas une vibro-lame non plus. Je te dis, pour moi, la vibro-lame, la lame existe déjà, et comme son nom l'indique, elle vibre. Ils allument et la lame vibre pour faire une sorte de friction. Enfin, je ne sais pas comment, je suis pas technique, mais pour moi, ce n'est ni l'un ni l'autre. Si c'est un sabre laser, c'est une honte. Si c'est une vibro-lame, ça va pas non plus.
C'est le mec qui lui a filé, il l'a mitonné, il lui a dit, tu vois, c'est un super sabre laser, je l'ai hérité et tout. Puis en fait, il croit qu'il en a un, mais il en a pas un.
Sinon, vous avez remarqué que dès qu'on... Je voulais revenir un petit... Je reviens un peu en arrière à propos d'Obi-Wan et les Mandaloriens. Vous avez remarqué que dès que Obi-Wan combat des Mandaloriens, il se met toujours au corps à corps. Là, encore une fois, il se foutent des coups...
Bah non, à la base, ils se mettent des coups d'épée, quand même.
Non, mais je veux dire, quand Obi-Wan combat les Mandaloriens dans l'usine...
Parce qu'ils le prennent de surprise.
Ouais, mais même, on, quand même, dès qu'on parle des Mandaloriens, même si on parle de... Donc, j'ai remarqué qu'Obi-Wan, il se mettait toujours au corps à corps avec des coups de poing et des coups de tête.
C'est ça qui est bon.
Quand il sort de la caverne, il se met des coups de pistolet laser. Après, on a parlé de du sabre laser. Qui en est pas un d'ailleurs, mais. Et puis, il y a eu la phase coup de poing. Donc, ils ont fait toute une gamme de bastons. Parce que c'est pas mal, quoi.
D'ailleurs, j'ai flippé pendant un millième de seconde quand, au moment où Obi-Wan saute dans les airs pour rattraper les Mandaloriens qui sont en train avec leur jetpack. Il y a un moment, il y a Obi-Wan qui saute sur un Mandalorien, je me suis dit, merde, ils vont quand même pas nous faire un remake de Matrix. J'ai vraiment flippé un instant, je me suis dit, ça, ils vont nous faire un combat dans les airs. D'ailleurs, il a duré juste assez longtemps pour que j'aie le temps d'avoir l'idée qui me traverse la tête. Je ne sais pas pour vous, mais... Non.
Non.
Tant pis, Henri, tant pis, c'est pas grave.
Sinon, en parlant du sabre laser, vous trouvez pas que Vizsla, il sait très bien, vachement bien s'en servir pour un nom de Jedi?
Bah, il peut s'entraîner, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Ah, mais sans la force, on n'est pas censé s'en servir aussi bien quand même.
Ouais, bon, ils
sont doués, hein.
Ils brillent pas longtemps non plus, quoi, hein.
Et puis, comme dirait Thomas, peut-être qu'il a suffisamment de midi-chloriens pour résister à Obi-Wan, hein.
Ouais. Si on veut.
Ouais. Ouais, c'est un Jedi qui s'ignore. Sinon, il y a eu pas mal aussi de débats justement entre Obi-Wan et Satine sur le fait d'être pacifiste, etc. Et ça, c'est revenu.
Pas du tout passionnant.
Ouais, ils sont revenus plusieurs fois d'ailleurs. Il y a eu la première fois là quand ils sont sur où ils en parlent vraiment là où il y a l'attentat. Attentat d'ailleurs où il y a des morts, il faut le signaler. Hein, donc ça c'est pas souvent dans The Clone Wars que tu vois des morts.
On en voit à tout épisode.
Ouais, mais si tu veux quand c'est des clones,
c'est pas les mêmes. Pareil. Voilà.
Et donc voilà, elle à chaque moment, elle va en profiter pour essayer de remettre un coup justement sur cette morale, essayer de remettre un petit peu Obi-Wan dans le droit chemin.
Ouais.
D'autres doléances ou nous sommes bons, nous sommes réduits, on va passer au commentaire général de l'épisode.
Moi, pourquoi pas. Tu vois quelque chose, Thomas, en fait?
Moi, non.
Bien, alors Thomas, à toi de conclure, de commencer.
Alors, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que, quand bien même j'étais contre, en fait, les Mandaloriens pacifistes, je suis toujours pas vraiment pour. En dehors de le fait qu'ils soient tous blonds, c'est vraiment le gros truc qui m'a choqué. Je me dis qu'en faisant un petit effort, comme d'habitude, hein, il est possible de donner de la cohérence à cet épisode par rapport à l'existant que j'ai lu, que ce soit en comics ou en roman, principalement avec Travis. On a donné des pistes justement pour relier ces deux univers et du coup finalement je trouve que ça passe à peu près même si ça pourrait être mieux donc cet épisode j'en suis à peu près content juste peut-être le combat que j'ai pas trouvé terrible notamment là quand il est prisonnier dans l'usine voilà.
Bah,
sur ce j'ai terminé.
Moi, je suis très mitigé, parce que comme vous avez pu sûrement l'entendre durant l'émission, j'ai pas du tout aimé tout ce qu'ils ont fait avec les Mandaloriens et tout ça. Donc, ça, j'avoue que ça m'a un peu gâché l'épisode, vu que j'avais une vision bien précise de ce que ça aurait pu être. Et donc, ça m'a un peu gâché l'épisode, bien que évidemment, le scénario était pas mal, et l'action était bien menée, mais je suis loin d'être convaincu. Ça m'a un peu bloqué tout ça, le fait de voir ces différences avec les Mandaloriens, vu que je suis un passionné de l'UE, donc voilà.
Pour ma part, c'est un peu pareil, hein, mais je trouve quand même qu'ils ont fait un bon effort pour essayer de concilier le tout, et surtout le fait de savoir que le gouvernement de Satine sera défait juste après la guerre des clones, c'est quand même un plus. Mandalore, on pouvait en avoir peur, il n'empêche que les graphismes sont tout à fait magnifiques, c'est tout à fait très très beau. Maintenant l'action est assez bonne, revoir certains éléments de jeu sont assez appréciables, c'est assez bien mené. Les combats aussi, c'est du pur mandalorien dès qu'on arrive avec les Death Watch, mais on ne souhaite qu'une chose, hein, faut le dire, c'est que Satine crève. Il faut qu'elle meure. Il le faut, mais ça arrivera pas, parce que c'est pas bien, donc c'est pas bien de tuer les pacifistes. Donc voilà, un épisode assez sympathique, j'ai envie de dire.
Le problème, c'est que, bon, sans spoiler, on a vu les trois... Je pense qu'on a tous vu les trois épisodes de la trilogie.
Non, j'ai pas vu le troisième.
Ah bon.
Donc tais-toi.
Ouais, voilà. Ça voilà. Roule.
Donc, je vous...
J'ai pas fait ma... Non, j'avais un autre truc à noter.
Mais c'est pas grave, il est déjà passé depuis une semaine.
Non, mais il faut quand même que j'en parle quand même.
Oui, vas-y, pour le prochain épisode de The Clone Wars.
Non, mais je voulais encore une petite...
Dépêche-toi! Non, on parle rien.
Non, ce que je voulais juste rajouter aussi pour terminer, c'est que même si ça m'a pas tellement plu sur les Mandaloriens, au moins ça remonte un petit peu le niveau par rapport au dernier épisode.
Bah ça c'est, mais
c'est hein, facile,
c'est pas difficile, même un épisode de Jar Jar remonte le niveau.
C'est sûr. Bon, alors je voulais juste conclure en disant que c'est le 5 février dernier qu'a été diffusé sur Cartoon Network l'épisode 213. Voyage en Temptation, dont voici le synopsis. Tandis que Obi-Wan, Anakin Skywalker et leur clone défendent la Duchesse Satine d'une tentative d'assassinat, Anakin découvre que Obi-Wan et la Duchesse ont un passé ensemble. Voilà, à toi, Louis.
Bon, bah, ça, c'est du synopsis de la mort qui pue, hein, ça va être passionnant. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct édition The Clone Wars. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook de la version française de Star Wars en direct et suivre nos faits et gestes sur Twitter. Ne manquez pas notre prochaine émission de l'édition The Clone Wars dans laquelle nous discuterons de l'épisode 213, Voyage of Temptation. De la part de Thomas, Henry et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.